9h46, François Gagnon. Oui. On en parlait tantôt, la réparation des électroménagers au lieu d'en oui. acheter du nouveau. Avant de passer aux questions de nos auditeurs, je comprends qu'à un moment donné, quand tu as quelque chose d'assez récent, tu peux te poser la question parce que tu dis, écoute, là, une réparation qui peut paraître insignifiante versus racheter un appareil qui coûte quelques milliers de dollars par moment. La question se pose.
Oui, effectivement. Et souvent de fois, ça vaut plus la peine de se battre un petit peu pour faire réparer sa laveuse ou sa sécheuse ou encore son réfrigérateur que d'aller en acheter un neuf. C'est sûr et certain que le concessionnaire qui vous vend les électroménagers va préférer vous en vendre un puis vous dire que l'autre est fini, là. Mais moi, si j'étais à la place de Catherine tantôt avec son fameux rubber, son fameux caoutchouc, là,
oui.
je m'informerais peut-être pour la garantie légale. Parce que tu sais que la garantie légale, ça permet d'avoir, compte tenu du prix, des biens qui doivent avoir une durée de vie raisonnable. Et selon l'OPC, là, je regardais tantôt, là, pour les électroménagers, la durée de vie raisonnable est plus grande que téléviseur encore. On dit qu'un téléviseur, c'est 10 ans. Ben pour une laveuse, c'est 11 ans, puis une sécheuse, 12. Pour la garantie légale.
Ça commence à en couvrir pas mal.
Ça en couvre beaucoup, là. Mais là, il s'agit de savoir si les fameux caoutchoucs sont visés par cette fameuse garantie-là. Alors, est-ce que c'est strictement les pièces de moteur, de transmission, etc., là? Ça, je ne sais pas que dans sa fameuse garantie. Mais c'est drôle. Puis, en plus, là, pour la garantie légale, c'est pas strictement le fabricant. C'est aussi le commerçant qui est responsable de tout ça. Donc, moi, je m'adresserai aux commerçants à qui j'ai acheté, surtout que si elle n'a que 2 ans, sa laveuse, là. Mais, puis habituellement, ils sont jasants, là, tu sais, quand ils se font menacer de se faire dire de ben, regarde, je vais peut-être aller en cours des petites créances, là, pour avoir gain de cause, là. Habituellement, ils vont jaser un peu parce que ça va leur coûter plus cher d'aller en cours des petites créances que de payer le fameux morceau puis la réparation.
Mais,
par contre.
Oui, vas-y.
Si t'es obligé de faire réparer ton appareil à tes frais, il y a quand même des façons de le faire. Si la réparation coûte plus que 50 $, le réparateur est obligé de fournir une évaluation écrite. Peut exiger des frais, c'est sûr et certain, là, dire, regarde, moi, je vais te charger 30 $ pour faire l'évaluation. Habituellement, les réparateurs vont dire, regarde, je te charge 30 $ pour faire l'évaluation, mais si tu le fais réparer, je te le déduis. Alors donc, à la fin, là, ça coûtera rien. Il doit fournir nom, adresse, nom et l'adresse du réparateur, le type de réparation à faire, le prix total de la réparation, la date et la durée de la validité de l'évaluation. Donc, il y a une durée dans le temps. Là. Tu peux pas dire, par exemple, faire son évaluation, puis dans 2 ans, dire, ben là, je vais le faire réparer, je suis prêt. Là. Non, il faut que ça soit fait quand même dans un temps raisonnable. Alors, on voit qu'il y a quand même certaines choses dans la loi de la protection des consommateurs qui est là pour nous protéger. Malheureusement, les gens s'en servent pas.
Quand tu. Voilà. Ouais, donc, c'est avec qui? C'est avec la compagnie directement ou à la limite, tu peux recourir à l'OPC en téléphonant à l'OPC pour dire c'est
écoute, moi, j'ai les deux. Le commerçant, celui qui te l'a vendu.
Okay.
Le commerçant et le fabricant. Donc, tu peux les deux à la fois ou un seul à la fois. Moi, j'ai le drôle, je commencerai par le commerçant.
Oui.
Habituellement, ils sont plus jasants, surtout si t'es un client fidèle un peu, là, moindrement fidèle, là, il va te regarder peut-être de travers un peu. Ouais. Il va dire okay, bon ben regarde, on va aller voir ça.
Réponse à des questions d'auditeurs,
oui.
entre autres, REER aujourd'hui.
Bon, alors, REER. Ça, c'est Herbert qui nous écrit qui veut s'acheter une maison cette année pour sa famille. Il a 2 enfants, une conjointe, il a épargné donc 100 000 $ en mise de fonds. Il a un compte dans un compte d'épargne. En plus, il pourrait utiliser le fameux RAP. Il pourrait aller jusqu'à 25 000 $. Cotise donc au régime épargne-enfant, 250 $ par mois pour son fils, sa fille. 125 par mois, ça fait environ un pot global, lorsqu'ils seront prêts à aller aux études, environ 27 000-28 000 $, j'ai calculé tantôt. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est quoi la stratégie à appliquer? Est-ce qu'il maximise son REER maintenant, donc pour l'année 2018, pour recevoir plus de retours des gouvernements? Je maximise la cotisation au régime épargne ou je garde toute l'épargne pour la mise de fonds.
Okay.
Moi, ma stratégie personnelle, moi, ce que je ferais, là, je maximiserais mes REER et avec le retour, moi, je le mettrais dans la mise de fonds pour la maison. Parce que tu sais que pour 125 000 $, il est en plein dans les normes pour s'acheter une maison de la façon que je peux voir ça, il y a quand même un bon revenu, là. Il pourrait s'acheter une maison jusqu'à la hauteur de 500 000 $ puis il n'aurait même pas besoin de passer par la SCHL. Donc, il va économiser de ce côté-là et ça lui permettra par la suite de peut-être mettre un petit peu plus de sous pour le régime épargne études. Et s'il veut maximiser ses REER plus tard, lorsque ses enfants seront aux études, parce qu'il pourra retirer le capital, mm-hmm. il pourra l'envoyer directement dans son REER à ce moment-là.
Parce que effectivement, quand tu as la SCHL, veut pas, ça vient rajouter. C'est un montant qui est assez appréciable.
C'est substantiel. Ça peut aller même jusqu'à 5-6% du montant que tu vas emprunter. Mm-hmm. Y a-tu pensé 300 000 $ 5%, ça fait. Puis là, tu le rajoutes sur l'hypothèque, faut tu le finances cette
de
affaire-là.
Plus, là.
Ça fait pas mal de sous, ça. Ça. À la fin, c'est 45 000. T'sais.
Autre question de Liette cette fois-ci.
Oui, elle a 67 ans. C'est la première fois qu'elle prend de l'argent dans ses placements. Dans la documentation qu'elle vient de recevoir, elle dit qu'elle a un gain de capital sur rachat. Ça veut dire qu'elle a racheté à l'intérieur même de son portefeuille, fort probablement, un fonds commun ou encore des actions qui lui étaient dévolues dans ce portefeuille-là. Et ça a déclenché un gain de capital. Alors, comment on déclare ça à la fin de l'année? La première chose, moi, je m'informerais auprès de votre banque et de votre conseiller financier qu'est-ce qui s'est fait comme opération, parce qu'il faut savoir le prix de départ, le prix de fin et l'inscrire dans les annexes 3 au fédéral et l'annexe G au Québec. Et c'est là que vous aurez votre gain de capital. N'oubliez pas que...
Le gain de capital, c'est quoi? C'est 50% qui est imposable?
C'est 50% du montant total, donc, qui est imposable. Si, par exemple, vous avez 1000 $ de gain de capital dans la déclaration de revenus, ce sera 500 $ qui sera donc dévolu comme revenu pour l'année 2018.
Donc, ça, c'est à retenir, mais normalement, je comprends pas si la dame a dit qu'elle a ce montant-là en gain de capital. La banque devrait fournir les explications, non?
Oui, normalement, oui, dans le relevé. Mais, tu sais, des fois, les gens, puis je les comprends aussi, là, c'est pas toujours facile à lire la façon dont c'est écrit. Parfois même, on n'a pas le prix de départ, faut s'informer. Alors donc, oui, effectivement, informez-vous auprès de votre conseiller financier qui vous a vendu ces placements-là pour savoir qu'est-ce qui a déclenché le gain de capital, combien ça vous a coûté au départ et combien ça valait à la fin pour savoir exactement le gain de capital que vous aurez à inscrire dans votre déclaration de revenus de 2018.
Tu m'ouvres une porte, François, puis c'est pas dans les questions, mais je fais un peu de millage sur ce que Liette te pose comme question.
Oui.
Des gens qui ont des chalets, là, puis ils sont exemple, ils sont en train de vieillir, puis là, ils voient la retraite s'en vient, ils ont des transferts à faire également. Est-ce qu'ils sont mieux d'attendre une période, exemple, s'ils ont le moyen de le faire, d'attendre la période, exemple, comme propriété secondaire, du moment où tu vas tomber à la retraite, donc tes revenus vont être un peu moins élevés pour que le gain de capital, dans le fond, soit moins imposé?
C'est une très, très bonne solution. D'autant plus que si le chalet, par exemple, est aux deux noms et que un des deux conjoints n'a pas de revenus, alors donc, encore, il va sauver
c'est lui
l'argent.
Qui le passe.
Ben, c'est ça. Alors, tu vas diviser le gain de capital en deux. Et la personne qui n'a pas de revenus va être certainement moins imposée que celui qui en a. Donc, il y a plusieurs stratégies. Et ça aussi, il faut s'informer auprès de spécialistes pour savoir, parce que là, c'est une question très hypothétique. Il y a également, tu peux utiliser la façon suivante. Si ton chalet est à peu près l'équivalent, parce que ça arrive souvent, là, à peu près l'équivalent de ta maison, est-ce que ça vaudrait pas la peine de l'utiliser comme maison principale au moment de la vente?
Exactement. C'était mon autre question. Tu dis, si tu vends une des propriétés, tu vends ta maison principale, admettons, puis tu veux vendre le chalet, tu vends ta maison principale, puis après ça, tu transfères ta résidence principale à ton chalet?
Ouais, c'est ça. Ça devient donc la deuxième résidence qui va être imposée sur le gain de capital. Alors, il s'agit de savoir laquelle des deux va générer plus de gains de capital.
Okay.
Alors, celle qui en générera le moins, alors tu te dis, bon, ben regarde, on va faire un changement d'adresse. Ça devient ma résidence principale. On peut le faire. Ça, c'est une autre stratégie qu'on peut utiliser et tu vas sauver un maximum d'impôts.
Et est-ce qu'il y a, s'il y a deux résidences, par exemple, qui sont vendues, on a toujours le chalet, la résidence principale. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une certaine période de temps qui s'écoule pour pas être pénalisé?
Non.
Ça peut être fait
dans la même année même.
Ah oui?
Oui. Okay. Il faut le déclarer. Même votre résidence principale, n'oubliez pas que maintenant, c'est la déclaration obligatoire et que si vous ne faites pas votre déclaration obligatoire de la vente de la maison principale, vous allez perdre votre droit à ne pas payer d'impôt sur le gain de capital de votre maison. ça risque de coûter extrêmement cher. Alors donc, c'est pas long à faire. Vous inscrivez la maison, l'année d'acquisition, combien vous l'avez payé, combien vous l'avez vendu. Ça s'arrête là. Alors donc, il y a pas de grand miracle là-dedans. Mais si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des pénalités et vous risquez même d'être obligé de payer le gain de capital sur votre demeure principale.
Bon, donc ceci dit, si c'est un peu complexe là, à comprendre, mais tenez-vous là pour dire, si vous avez une résidence secondaire à vendre, là, demandez donc à votre conseiller si ça vous mêle tout ça, parce que vous pourriez avoir quand même
effectivement, des problèmes. Oui, effectivement, parce que c'est très complexe malgré tout.
Il nous reste même pas une minute, tu as quelques chiffres sur le Super Bowl. Là.
Oui, moi c'est les publicités que je trouve tout à fait effarantes. J'en ai vu quelques-unes, là. Je sais pas si tu en as regardé jusqu'à maintenant. Je pense entre autres aux chiens de Budweiser, là, où on veut rendre la compagnie plus écologique qu'auparavant. Tu sais que pour un 30 secondes, on va battre un record cette année, c'est 5,1 millions de dollars, 350 millions. Ça veut dire que les publicitaires dans son ensemble vont dépasser 3,50 $ par téléspectateur, mais c'est extrêmement payant parce que les chiffres qui sont sortis pas plus tard qu'hier dévoilent que ça va rapporter à tout le monde 75 $ par téléspectateur. On voit que c'est un investissement extrêmement payant.
Merci beaucoup, François.
Merci.
Salut bien.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Il est 9h57.